Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié à l'origine en anglais sous le titre Musicophilia, Tales of Music and the Brain, cet essai d'Oliver Sacks examine les liens entre l'expérience musicale, le cerveau et l'identité personnelle. Neurologue et écrivain, Sacks s'appuie principalement sur des observations cliniques, complétées par des travaux de neurosciences, l'histoire de la musique et des réflexions sur l'évolution. Le livre ne propose pas une théorie unique de la musique, il juxtapose des cas de perte, d'apparition ou de transformation radicale des capacités et des goûts musicaux. Des personnes atteintes d'amnésie, de démence, de troubles du mouvement, d'épilepsie, d'autisme ou de lésions cérébrales y révèlent la diversité des fonctions mobilisées par la musique. Sacks montre ainsi que percevoir une mélodie, suivre un rythme, éprouver une émotion ou jouer d'un instrument ne repose pas sur un seul centre cérébral. Son objectif est moins de réduire la musique à la biologie que de comprendre, à travers les anomalies neurologiques, pourquoi elles demeurent si profondément liées à la mémoire, au mouvement, au sentiment de soi et à la vie collective. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la musique comme fonction humaine distribuée dans le cerveau, l'idée directrice de Musicophilia est que les humains sont une espèce musicale autant que linguistique. Cette formule ne signifie pas que chacun possède le même talent ou la même formation, mais que la musique engage très largement nos facultés de perception, de mémoire, d'anticipation, d'émotion et de coordination motrice. Sacks insiste sur le caractère distribué de ce traitement cérébral. Le rythme, la hauteur, le timbre, les contours mélodiques, l'harmonie et la reconnaissance d'un morceau peuvent être altérés séparément. Les atteintes neurologiques qui empêchent de suivre une mélodie sans affecter fortement le langage, ou inversement, rendent visible cette relative autonomie des compétences musicales. La musique ne se laisse donc pas expliquer par une simple zone du cerveau, ni par le seul système auditif. Elle recrute également des circuits associés au mouvement, à l'attention, aux émotions et aux souvenirs autobiographiques. Cette pluralité aide à comprendre pourquoi une personne peut conserver une réaction affective intense à une chanson tout en perdant certaines connaissances musicales explicites. Elle explique aussi l'extrême variété des expériences décrites dans le livre, depuis l'indifférence musicale jusqu'à l'obsession ou au talent remarquable. Pour Sacks, les cas cliniques ne sont pas des curiosités isolées, ils servent à décomposer une capacité ordinaire, habituellement vécue comme immédiate et indivisible. Deuxièmement, les pathologies musicales révèlent autant les pertes que les surgissements. Sacks organise une grande part de son enquête autour de phénomènes qui paraissent paradoxaux. Une lésion, une crise ou un traumatisme peut diminuer une aptitude musicale, mais aussi déclencher une attirance nouvelle et parfois envahissante pour la musique. Le cas bien connu du chirurgien Tony Sicoria, qui développa après avoir été frappé par la foudre un besoin impérieux de jouer et de composer, illustre la seconde possibilité. À l'autre extrême, certaines personnes deviennent incapables de tolérer la musique ou de l'entendre comme une forme organisée et signifiante. Le livre aborde également les airs persistants, les hallucinations musicales et certains effets de l'épilepsie sur les goûts ou l'activité musicale. Ces situations conduisent Sacks à écarter une vision trop simple du cerveau comme machine où chaque fonction posséderait un emplacement fixe et un résultat prévisible. Une modification neurologique peut désinhiber des tendances, perturber les filtres de l'attention, réorganiser les priorités affectives ou modifier l'accès à des capacités préexistantes. Pour autant, l'auteur ne transforme pas ses récits en preuves de talent caché universel. Il conserve une approche clinique attentive à l'histoire de chaque personne, à son environnement culturel et à la singularité de son expérience. Le terme de pathologie devient ainsi un outil d'exploration des formes inhabituelles de la sensibilité musicale, plutôt qu'une simple étiquette médicale. Troisièmement, le rythme comme ressource pour le mouvement et la rééducation. L'un des apports les plus concrets du livre concerne l'effet organisateur de la musique sur le mouvement. Sacks décrit notamment la manière dont un rythme régulier peut aider certains patients atteints de maladies de Parkinson à initier et à maintenir une marche devenue difficile. Lorsque les mécanismes moteurs automatiques sont entravés, le repère temporel extérieur fourni par la musique peut soutenir la coordination des gestes. Cette observation ne signifie pas que la musique guérit la maladie ou remplace une prise en charge médicale. Elle montre plutôt qu'elle peut offrir un canal de compensation en mobilisant des systèmes sensoriels, attentionnels et moteurs encore disponibles. La distinction est importante, l'intérêt thérapeutique de la musique tient souvent à son usage situé, ajusté aux capacités d'une personne, et non à une propriété miraculeuse de n'importe quel morceau. Sacks élargit cette réflexion aux gestes du musicien et à la pratique instrumentale. Jouer suppose d'intégrer perception sonore, planification, précision motrice et anticipation rythmique, ce qui explique que certains troubles spécifiques puissent affecter durement des interprètes expérimentés. Le livre rappelle aussi que la pratique soutenue modifie le cerveau par apprentissage et plasticité. La musique apparaît donc à la fois comme une activité exigeante qui façonne des réseaux cérébraux et comme un appui possible lorsque certains circuits sont fragilisés. Cette double perspective évite de séparer artificiellement hardcore et neurologie. Quatrièmement, mémoire musicale, démence et continuité de l'identité, Musicophilia accorde une place centrale à la résistance particulière de la mémoire musicale. Chez certaines personnes souffrant d'amnésie profonde ou de démence, des chansons familières restent accessibles alors que des faits récents, des noms ou des épisodes biographiques disparaissent. Sachs ne présente pas ce constat comme une règle absolue, mais comme un indice du caractère multiple de la mémoire. Une chanson est rarement stockée sous la forme d'une information neutre, elle associe une mélodie, des paroles, une voix, une époque, des gestes parfois répétés et des émotions liées à des relations ou à des lieux. Cette densité d'association peut préserver ou réactiver des voies d'accès que d'autres formes de rappel n'atteignent plus. La musique peut alors susciter reconnaissance, chant, attention ou expression affective chez une personne qui paraît autrement absente au monde. L'enjeu dépasse la stimulation cognitive. Sachs souligne que ces réponses musicales peuvent manifester une continuité de la personne, même lorsque ses capacités de narration et de conversation sont très réduites. Il invite ainsi à ne pas définir l'identité seulement par la mémoire factuelle ou l'autonomie intellectuelle. Toutefois, le livre reste plus nuancé qu'un plaidoyer simpliste pour la musicothérapie. Les effets observés varient selon les individus, les histoires musicales et les maladies. Sa force est de montrer pourquoi l'écoute d'un morceau significatif peut devenir une rencontre avec une identité encore active, plutôt qu'une activité accessoire. En dernier lieu, de l'intelligence musicale à la dimension sociale de l'écoute, au-delà des troubles acquis. Sachs s'intéresse au profil où la musicalité semble particulièrement développée malgré d'importantes difficultés dans d'autres domaines. Ses pages sur le syndrome de Williams, l'autisme et certains talents musicaux interrogent l'idée qu'une unique mesure de l'intelligence suffirait à décrire une personne. Il ne prétend pas que toutes les personnes concernées possèdent un don musical, ni que le talent annule les difficultés réelles. Il met plutôt en évidence que l'oreille, la mémoire des mélodies, le sens du rythme, le désir de chanter ou l'expressivité peuvent former des compétences relativement distinctes. Cette constatation rejoint la question plus large de la neurodiversité, une vie mentale ne peut être résumée à ses déficits. La musique devient aussi un espace de participation sociale, surtout lorsqu'elle permet une expression et une reconnaissance que le langage ordinaire rend plus difficile. Sachs prolonge cette analyse par une réflexion sur la force collective du rythme et du chant. La musique synchronise les corps, canalise l'attention et rend partageable des affects qui ne demandent pas nécessairement une explication verbale. Elle peut donc contribuer à la cohésion d'un groupe sans que cette fonction sociale épuise sa valeur esthétique ou intime. Le livre tient ensemble ces deux échelles, l'expérience irréductiblement personnelle d'une œuvre entendue et la puissance de rassemblement d'une pratique musicale partagée. En conclusion, Musicophilia s'adresse d'abord aux lecteurs intéressés par le cerveau, la médecine, la musique ou les rapports entre handicap et créativité. Il conviendra aussi aux musiciens, enseignants et soignants qui cherchent des repères pour penser la place de l'écoute et du rythme dans la vie quotidienne ou l'accompagnement de personnes vulnérables. Il ne faut toutefois pas l'aborder comme un manuel de neurosciences expérimentales ni comme un guide clinique de musicothérapie. Les données scientifiques y servent surtout à éclairer des histoires individuelles et certaines hypothèses restent présentées dans l'esprit ouvert et exploratoire propre à Sachs. Cette forme peut dérouter les lecteurs qui attendent une démonstration systématique ou un argument unique continuellement développé. Elle constitue néanmoins la singularité du livre, là où de nombreux ouvrages sur le cerveau de la musique privilégient les protocoles, leur perte et leur façon de préserver une existence signifiante, comparée à un simple recueil d'anecdotes médicales. Le livre va plus loin, chaque cas aide à distinguer les composantes de la musicalité et à questionner ce que la musique rend possible dans la mémoire, le mouvement et les relations. Sa valeur intellectuelle réside précisément dans cette articulation entre rigueur clinique, curiosité culturelle et attention éthique à la personne. Il laisse au lecteur une compréhension moins abstraite de la neurologie et une perception plus complexe de la place de la musique dans l'expérience humaine. Si vous souhaitez soutenir Oliver Sachs, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.